Cette émission est préparée par Romain de Bec-de-Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon, à la réalisation Véronique Villa, à la suggestion musicale Michael Simon et aux manettes aujourd'hui Pierrick Monsigny.
Les hommes font quelque chose quand ils parlent, ils font quelque chose quand ils parlent exactement de la même façon qu'ils font quelque chose quand ils fabriquent un objet. Le discours, ça se fabrique. Le discours, une fois fabriqué, ça existe. Une fois que ça existe, ça subsiste. Une fois que ça subsiste, ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, ça se transforme, ça a des effets, etc. C'est cette consistance interne du discours en quelque sorte comme objet fabriqué, cela que je voudrais arriver à restituer.
L'important, je crois, c'est que la vérité n'est pas hors pouvoir ni sans pouvoir. Elle n'est pas, malgré un mythe dont il faudrait reprendre l'histoire et les fonctions, la récompense des esprits libres, l'enfant des longues solitudes, le privilège de ceux qui ont su s'affranchir. La vérité est de ce monde. Elle y est produite grâce à de multiples contraintes. Elle y détient des effets réglés de pouvoir. Et chaque société a son régime de vérité, sa politique générale de la vérité. C'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrai, les mécanismes et les instances qui permettent de distinguer les énoncés vrais ou faux, la manière dont on sanctionne les uns et les autres, les techniques et les procédures qui sont valorisées pour l'obtention de la vérité, le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai. C'est une nouvelle fois avec Michel Foucault que nous ouvrons la semaine. Cet extrait est tiré de Dit et écrit. Il est cité à dessein par Vincent Glade dans l'article RIP, les faits, consultable en ligne. Il est 14h passé de 2 minutes. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Cette semaine, nous sommes régalés. Au propos des discussions de chaque jour, nous avons l'habitude de rajouter des histoires en fin d'émission. Et jusqu'à vendredi, nous voulions entendre de vraies histoires, d'histoires fausses, des mensonges. Vous avez bien un petit mensonge à partager avec nos auditeurs, a-t-on demandé autour de nous, et on nous a répondu oui. Aujourd'hui, la raconteuse se souvient d'une promenade hivernale au matin du dimanche qui avait suivi une nuit de fête, une longue nuit de fête anglaise. Elle et un copain d'alors entrent dans une maison et se lancent dans une sacrée improvisation mensongère.
Un mensonge a mené à un autre mensonge, c'était interminable. On n'avait vraiment qu'une seule envie, c'était d'exploser des rires, mais cette famille était tellement douce et touchante.
Et la suite vers 14h50. C'est le premier moment de ce chantier que nous consacrons cette semaine au faux. Un premier temps qui s'attache à réfléchir à ce que deux récents événements politiques, au moins l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis et le vote en faveur du Brexit depuis l'Angleterre, ont accentué le discours selon lequel nous serions mondialement entrés dans une ère post-factuelle, post-vérité. Le surmoi a quitté la politique. L'impératif de vérité ne règne plus, ni dans l'information, ni dans le discours, a-t-on pu lire ici et là. Même le fact-checking a le blues, lit-on encore. Alors, il a peut-être le blues, mais il est encore à peu près sur pied. Samuel Laurent, le fact-checking, vous êtes journaliste, vous êtes responsable des décodeurs pour le journal Le Monde et le site internet lemonde.fr. Bonjour et merci d'être là.
Merci de me recevoir.
Le vrai du faux, le cru du su, vos recherches récentes portent sur leur élaboration, leur impact et leur circulation. Gérald Bronner, on peut citer l'un de vos ouvrages référence, La démocratie des crédules, paru aux presses universitaires de France et republié maintes fois. Je crois qu'on en est, je ne sais plus, peut-être la 7e édition. Vous êtes en direct et en duplex depuis Nancy. Bonjour à vous et merci d'être là.
Bonjour.
Merci d'être là aussi aux équipes de France Bleu qui permettent la liaison et la tenue de cet entretien. Un faux auquel vous attaquez assez souvent, Samuel Laurent, à la fois à travers les décodeurs, donc papier ou internet, et à la fois par votre fil Twitter, c'est l'existence de les médias, écrit d'un seul tenant, ou de les journalistes, écrit aussi d'un seul tenant. Pourquoi pour vous c'est un faux à démonter en priorité ?
Alors c'est pas forcément en priorité, c'est parce que c'est un faux qui moi m'agace. Pourquoi ? Parce que de mon petit niveau, quand j'essaye de monter une rubrique qui depuis 2014 est notamment beaucoup sur la vérification, mais pas que, on essaye de faire beaucoup de pédagogie de l'information, on essaye de faire de l'information innovante avec le data journalisme, et que c'est parfois agaçant quand vous sentez bien que dans l'esprit de la plupart des gens, les médias, c'est en fait 5 éditorialistes qui voient à la télévision, qui sont effectivement critiquables en bien des points, mais que ça occulte du coup tout un champ qui est celui de médias pluriels, d'autant plus que je pense qu'ils se réinventent beaucoup en ce moment, et que donc à essentialiser ainsi les médias, on ne fait que les desservir. Et c'est vraiment la critique, comment dire, à la fois c'est la critique qui nous est adressée par l'extrême droite, qui est un peu au cœur de cette question du faux aujourd'hui et de la stratégie politique qu'il y a derrière, qui est celle de la réinformation, qui a été théorisée il y a très longtemps. Et quand vous êtes attaqué déjà par l'extrême droite sur ce point-là, qui est en gros l'idée de délégitimiser les médias pour ensuite mettre en place d'autres médias plus partisans, et qu'en plus vous prenez aussi cette critique de l'autre côté, si j'ai envie de dire, du spectre, donc par des, en l'occurrence par Frédéric Lordon, qui s'est livré à une très violente charge, notamment sur ma petite personne l'autre jour, je trouve que c'est un peu, enfin comment dire, inepte et à la fois dangereux, parce que à taper ainsi sur les médias, on ne fait que renforcer le faux.
Alors à une petite nuance près, Frédéric Lordon n'a pas pu être là aujourd'hui, mais si j'ai bien lu son papier, ce n'est pas tant sur l'existence ou non d'une information fausse, hein, qui serait peut-être plutôt le créneau de la réinfosphère, qui va critiquer la véracité des informations qui sont mises en circulation. Ce que souligne Lordon, c'est plutôt l'existence d'une homogénéité quand même dans ce qu'il appelle les médias. Ce sont deux critiques un petit peu
tout
différentes,
à fait. Mais
non,
pour moi, on peut pas absolument. Mais dire les médias sont homogènes, donc ils n'ont pas à faire de fact-checking, donc finalement ils n'ont pas de, comment dire, ils n'ont pas la technicité de faire valoir les faits, et alors peut-être pas le vrai. Enfin, on va beaucoup en discuter. J'imagine la notion de vérité, mais de ne pas faire voir les faits. Les médias, c'est avant tout un dispositif technique pour justement apporter une information relativement fiable. Enfin, c'est la première chose qu'on apprend en école de journalisme, c'est croiser ses sources et avoir une information qu'on écrit qui n'est pas factuellement fausse. Après, qu'on donne des opinions, qu'on se positionne ou pas, qu'on ne parle pas assez de l'extrême gauche, de l'extrême droite, c'est une autre question pour moi, qui est une vraie question qui a tout à fait sa place. Je suis pas en train de dire que les médias sont innocents et n'ont rien fait. Mais c'est cette essentialisation de ne pas dire les mots et de ne pas dire ce qui m'énerve, c'est les éditorialistes à la télévision, par exemple. C'est pas forcément Marie Richeux sur France Culture. Et je pense que Frédéric Lordon, vous n'êtes pas parmi ces premières têtes de Turc, j'espère. Qui sait, ceci dit.
Est-ce que justement, puisque vous évoquez votre formation en journalisme, est-ce que cette notion du faux, du vrai, du fait, on imagine que oui, mais le vrai et le faux, est-ce que c'est présent dans la formation des journalistes en ces termes-là?
À mon époque, qui commence à être assez lointaine, oui, puis je refais des formations, et nous maintenant on fait des formations fact-checking. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment les étudiants changent, et comment, moi je viens d'une époque où on avait des profs un peu anciens qui me disaient Wikipédia c'est pas fiable, faut pas aller regarder sur Wikipédia, machin. Aujourd'hui, on a des étudiants à qui il faut apprendre que toutes les sources ne se valent pas, et que non, ils peuvent pas se baser sur ce blog inconnu pour écrire que ça s'est passé comme ça. Enfin...
Mais ne pas se valoir, c'est une chose, et en effet, travailler comment dire, une sorte de densité des sources, c'est une chose, mais est-ce que la notion de vrai et ce curseur-là du vrai et du faux est quelque chose qui est discuté en ces termes? C'est pas exactement la même chose, fiabilité et vérité.
Oui, alors je pense pas qu'à l'époque on discutait beaucoup de la notion de vérité elle-même, en tout cas dans son acception philosophique. Après, la question, je pense, a changé aussi, c'est-à-dire que, être, c'est être perçu, et c'est ce qu'on perçoit, et je pense que c'est aussi cette question-là, c'est effectivement, il n'y a peut-être pas de vérité immanente, il n'y a que des perceptions, c'est un peu ce que dit Lordon. Maintenant, à un moment donné, 2 et 2 font 4, et le ciel est bleu, et ça, ce sont des faits, et on a besoin des faits pour continuer à exister en société.
Sur ce changement d'époque, Gérald Bronner, est-ce que vous avez l'impression, parce que j'avais l'élégance de rappeler qu'il s'agit d'une réédition, grande réédition, La démocratie des crédules, est-ce que vous voyez ce curseur bouger? Est-ce que vous avez l'impression qu'on se dirige vers peut-être un regard plus précisément pointé vers la question de la vérité?
En tout cas, c'est une juste préoccupation. Je dirais que lorsque vous avez rappelé tout à l'heure la question, le thème de la post-truth policy qui a été considéré par le dictionnaire d'Oxford comme le mot de l'année, si vous voulez. Je souligne ici que ce terme, disons, charrie une certaine ambiguïté. Si on entend par ce terme, comme j'ai lu quelquefois, l'idée que les individus, nos contemporains, c'est-à-dire vous, moi et beaucoup d'autres, serions devenus indifférents à la vérité, alors je pense que c'est une idée qui est très fausse. En revanche, ce que je crois, c'est que les conditions actuelles du marché de l'information, et on pense en particulier à sa dérégulation que constitue Internet, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des gens comme Samuel Laurent, il existe encore des journalistes, bien entendu, c'est-à-dire des gens qui sont des acteurs de la régulation de ce marché de l'information, c'est-à-dire qu'ils vont dire au jour le jour, on va parler de ceci, on va peut-être pas parler de cela parce que ça me paraît douteux ou que c'est tout simplement faux, que c'est une rumeur, etc., etc. Mais vous savez bien que Internet ne réagit pas de cette façon. La caractéristique d'Internet, c'est qu'il est relativement dérégulé. Et donc, la question n'est pas de savoir si les individus sont devenus indifférents à la vérité. Moi, je ne crois pas que les transformations technologiques opèrent tout simplement des formes de mutations massive hein, de notre espèce. Je pense que c'est pas réaliste scientifiquement. Et, comme on a pu dire que la télévision nous rendit idiots, ce qui voudrait dire qu'avant l'apparition de la télévision, nous aurions tous été des individus intellectuellement libres, etc. Je pense que c'est pas très réaliste. En revanche, ce qui est vrai, c'est que ces sauts technologiques révèlent un certain nombre de fonctionnements du cerveau qui ont toujours existé, mais qui, dans un certain nombre de cas, demeuraient confinés dans des espaces de radicalité et qui aujourd'hui essaiment dans l'espace public comme des revendications justes. Par exemple, l'idée qui a bien été pointée hein, par Samuel Laurent du fait qu'une corporation professionnelle comme les journalistes serait une entité une et indivisible, sans contradiction interne, sans concurrence interne, est une idée extrêmement naïve, mais bien disons habillée de quelques vocabulaires techniques et du haut d'une chaire et d'une certaine autorité, on peut facilement faire passer une idée de comptoir en réalité, car c'est une idée de comptoir, pour une idée de haute vue de l'esprit critique, n'est-ce pas, et insuffler l'idée en effet que toute vérité est une construction qui traduit les rapports de force, de pouvoir, etc. C'est vrai que quelquefois le discours officiel, et même souvent le discours officiel, est une construction sociale, mais c'est un paralogisme, une erreur de raisonnement que d'en déduire qu'il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, ou en tout cas de mode d'administration de la preuve qui soit universel. Je vous signale qu'il est d'ailleurs assez piquant que vous ayez fait une longue citation de Foucault, parce que ça fait précisément partie des auteurs qui ont sapé l'autorité de l'universalité de la science et de ses démonstrations, et de son administration de la preuve. Et donc je pense qu'il est temps aujourd'hui, non pas de croire que les gens sont indifférents à la vérité, mais de reposer la question de l'enseignement, de la méthode, partout où on le peut.
Foucault n'a pas fait que ça, mais ce serait encore un très long sujet d'en débattre.
Vous me réinviterez à cette occasion.
Exactement, avec plaisir. Ce qui m'intéresse dans le fait que vous souligniez le choix des mots, ce post-truth, l'ère de la post-vérité, c'est qu'il ne met pas en jeu le faux, mais bien la vérité, le vrai. Et c'est à cet endroit-là que, d'une certaine manière, se situerait la discussion. Qu'est-ce que ça nous dit? Comme s'il y avait une sorte de polarisation plus forte vers le vrai et la critique de son élaboration, sa construction, etc. Et que presque il y aurait une sorte de désintérêt un peu pour la question du faux.
Bah, c'est-à-dire que je pense que, alors pour le coup, c'est vraiment le pile et face de la même pièce, hein, théoriquement. C'est-à-dire qu'en effet, la fragilisation de toute idée du vrai, encore une fois, d'administration de la preuve, est favorable à tout discours, disons, concurrent à cette vérité. Et dans le fond, saper les fondements même de la possibilité d'administrer le vrai, c'est aussi savonner la pente de la possibilité de dire le faux. Dans le fond, on peut arriver à la conclusion que rien n'a d'importance, puisque tout le monde ment. Et lorsqu'on est dans cette situation de post-truth, effectivement, de société post-vérité, qui me semble encore une fois un terme fautif, hein, j'utilise moi-même plutôt le terme de démocratie des crédules, comme vous l'avez rappelé, parce que je pense que tout cela est finalement profondément démocratique, eh bien, lorsqu'on aboutit à cela, on ouvre facilement la porte de la contamination du croire par le désir. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, dans le fond, ce qui compte dans des propositions intellectuelles que l'on trouve sur Internet ou ailleurs, c'est qu'elles complaisent à l'idée que nous nous faisons du monde. Nous allons chercher des conclusions qui vont dans le sens de ce que nous croyons déjà. Et du coup, tout ce qui consiste à vérifier son information, à douter de soi-même, à faire preuve finalement de vrai esprit critique, eh bien, tout cela est très coûteux pour notre cerveau. Vous savez, nous sommes tous très feignants intellectuellement. C'est ce qu'on appelle, le Fiske et Taylor, de psychologue, appelait ça l'avarice cognitive. Nous sommes des avares cognitivement, y compris moi qui vous parle. Eh bien, nous avons tendance à chercher une forme de confort, tout simplement, de confort. Et puis, cette dérégulation du marché de l'information aussi, elle va mettre en exergue ce que j'appelle le démagogisme cognitif, c'est-à-dire la volonté pour l'information, pour les offreurs d'information, et c'est ça le grand danger, à mon avis, qui plane sur la profession de journaliste, plus que tout autre, plus que la soumission au système ou que sais-je, c'est le fait de vouloir donner de l'information qui complaise à la représentation que l'on se fait de la demande d'information. Peu à peu, y compris les professionnels de l'information, nous donnent l'impression de vouloir rencontrer une demande, comme ça se fait en politique. C'est pourquoi je parle de démagogie cognitive, si vous voulez. En politique, quand l'offre politique cherche à rencontrer une demande, eh bien, on appelle ça de la démagogie, voire du populisme dans le pire des cas. Or, le grand danger face auquel sont portés les professionnels de l'information, que sont entre autres les journalistes, ben c'est tout simplement l'affaiblissement de leur business model. C'est-à-dire que il y a un certain nombre de supports qui sont de moins en moins rentables. Hein, on pense aux journaux, on pense aux hebdomadaires, enfin tous ceux qui ont généralement un support papier, eh bien cette mise en danger les rend, on comprend bien pourquoi, de plus en plus sensibles aux conditions de marché. Hein, ils veulent trouver donc une demande, quoi, tout simplement. Les gens, c'est quoi cette demande? Eh bien c'est là le problème, cette demande, c'est du temps de cerveau disponible, c'est-à-dire du temps d'attention, ce qu'on appelle l'économie de l'attention, du temps d'attention que les gens vont bien vouloir accorder à votre offre d'information, puisque l'offre d'information aujourd'hui elle est plus rare, elle est pléthorique, et donc elle perd de la valeur en quelque sorte. Et ceux qui vont gagner la bataille de l'attention, et je vais prendre l'exemple de Trump, ceux qui vont gagner la bataille
mais
de l'attention...
Mais ne faites pas toute l'émission à 14h15, sinon on est fichu, Gérald Brunner.
Certainement pas. Vous préférez que je m'arrête là, peut-être?
Non, je vous laisse alors, aborder un petit peu l'exemple de Trump, parce qu'on y reviendra.
Je vais finir mon idée, c'est très simple, c'est que cette bataille de l'attention, c'est une bataille de l'hyper-concurrence sur le marché de l'information, et par conséquent, ceux qui gagnent du temps d'attention sont ceux, par exemple, qui vont avoir une stratégie d'outrance. On sait que pour Trump, et j'en viens donc à cet exemple, dans la bataille électorale qui a conduit à la victoire, et qu'aucun sondage n'avait prophétisé, eh bien, les États républicains ont commenté sur Facebook notamment 12 fois plus les commentaires de Trump plutôt que de Clinton, et dans les États démocrates, même dans les États démocrates, deux fois plus. Donc on voit que la bataille politique, elle commence d'abord par la bataille de l'attention, gagner la bataille de l'attention, et puis ensuite éventuellement gagner la bataille de la conviction.
Dans les cafés ou n'importe où tu vas, beaucoup de gens savent que tu es menteur, ou ils écoutent ton histoire, mais souvent c'est pour combler le vide. Souvent. Ça fait rien, il est 2h du matin, la porte va fermer, la patronne est prête à te foutre dehors, ou le patron est prêt à te foutre dehors. Tu racontes une histoire sensationnelle. Même si c'est du mensonge, ça fait rien. On t'écoute parce que c'est une forme de chaleur, c'est une forme de vibration. On entend quelque chose et c'est beau à entendre. On dit c'est bien. On sait très bien que le lendemain matin, il faut se lever à 6 heures pour laver les tasses ou faire la vaisselle dans le bar. Les gens, ils t'écoutent. Ils sont heureux.
Ils sont heureux. C'est un extrait des Nuits magnétiques diffusées en février 1980 sur France Culture qui s'appelait « Des mensonges en hiver ». C'était la deuxième partie. Et ça me semblait très beau de faire entendre ce commentaire. On ne sait pas, c'est un homme qui parle des fins de nuit dans des bars et de la chaleur du mensonge et de la manière dont ça vient se glisser dans un vide. On entendait Gérald Brunner dire à l'instant qu'il y a peut-être une question du business model et peut-être du froid économique qui se glisse dans la pratique du journalisme. Aujourd'hui, Samuel Laurent, est-ce que vous diriez que finalement... Pour le politique, alors en utilisant des grandes catégories qu'il faut par ailleurs démonter, mais pour le politique et pour certaines formes de pratiques journalistiques, il y aurait une façon de combler ainsi le vide et peut-être plus encore que le reste, un vide économique.
Oui, je pense que alors un vide économique pour le politique, c'est peut-être moins évident, mais en tout cas pour le journalisme, c'est évident aussi que, en fait, là encore, l'essentialisation des médias, elle empêche, par exemple, de penser que le journalisme, en tant qu'exercice professionnel sanctionné par des diplômes et des méthodes, c'est un tout petit bout de ce qu'on appelle les médias. Les médias, c'est Cyril Hanouna, c'est n'importe quoi qui est du divertissement. Et sur Internet, effectivement, qu'est-ce qu'on partage? Je rejoins tout à fait les conclusions de Gérald Bonnox, avec lesquelles je suis totalement d'accord. On partage de l'émotion avant tout. Sur un réseau social, ce qu'on partage, c'est ce qui nous fait rire, ce qui nous indigne, ce qui nous met en colère, ce qui nous attriste. Et l'émotion, c'est pas le meilleur véhicule de la raison. Et des gens, sur ce, ont très bien compris comment capter cette émotion, que ce soit à des fins de ce qu'on appelle donc le clickbait, c'est-à-dire je vais vous chercher, je vais vous mettre un titre racoleur, une image accrocheuse, pour que vous veniez sur mon article, quitte à ce qu'il n'y ait rien derrière, voire aujourd'hui sa déclinaison qui est sans doute encore plus pernicieuse, qui sont les publicités dites algorithmiques, qui est donc le truc que vous trouvez en bas des articles sur les sites web, avec un autre titre de quelque chose qui a l'air d'être un article, mais un coup sur deux, c'est pas un article, c'est une pub. On vous a attiré vers cette pub avec un titre rigolo, une photo choc, quelque chose comme ça. Et effectivement, vous n'avez pas au final ce que vous avez demandé, mais c'est pas grave, vous êtes dans le grand maelstrom d'Internet, vous allez trouver autre chose, un autre bon. Et effectivement, vous avez une indifférenciation des contenus surtout, qui est finalement, quand je lis tout ça, à quel moment je lis de la pub, à quel moment je lis un article journalistique qui a été vérifié, à quel moment je lis cette espèce de format hybride que vous allez trouver sur des Melty, sur tous les nouveaux sites de cette nouvelle génération, où finalement, je prends une info, je l'ai vu passer sur Internet, je la réécris, un peu marrante, je vérifie rien du tout, c'est pas grave, ce qui compte c'est l'histoire. Effectivement, c'est l'histoire, elle est jolie. Est-ce qu'elle fait rire? Est-ce qu'elle indigne? Est-ce qu'elle attriste? Et c'est finalement ça le but à atteindre. Et c'est vrai que c'est un vrai problème économique global auquel les médias journalistiques, je vais essayer d'être un peu plus spécifique, sont confrontés. C'est-à-dire que vous avez le choix aujourd'hui entre une économie qui, à un moment donné, va être une économie de l'attention, parce que vous êtes obligé de tomber dans ce type d'approche, et une économie de la souscription, c'est-à-dire devenir un site payant sur abonnement, auquel cas vous rechoisissez un lectorat, vous pouvez vous permettre d'être plus sélectif, plus qualitatif, mais vous perdez en aura démocratique. C'est-à-dire que beaucoup moins de gens vous lisent, et que quelque part, part, votre information de qualité n'est accessible finalement, est accessible à beaucoup moins de monde que l'information, je vais pas dire poubelle, je vais pas être méchant avec, avec d'autres sites, mais que cette information beaucoup moins vérifiée ou beaucoup moins fiable, qui elle, inonde partout les réseaux sociaux.
Voire fausse, puisqu'il faut aussi dire que voilà, il y a ce genre d'informations qui sont complètement fausses, et qui circulent au même titre. Quand vous parlez de, par exemple, l'utilisation de cette espèce de flou de définition, c'est-à-dire on ne sait pas exactement où est-ce qu'on est, quel article, c'est un flou qu'utilise énormément, et vous l'avez dit d'ailleurs, la publicité et le marketing. Alors là, pour essayer de faire peut-être un travail comparatif avec ce qui se passe en politique, alors ce serait quoi? Je dis ce qui va donner un peu de chaleur aux gens sans me soucier de savoir si c'est vrai ou faux. Je dis ce qui va me créer une éventuelle audience, qui va m'attirer un éventuel électorat.
Moi, ça me semble une évidence aujourd'hui que les politiques parlent directement de moins en moins par notre médiation journalistique, mais de plus en plus directement via les réseaux sociaux, et qu'effectivement, vous pouvez tout à fait faire une campagne où vous allez articuler trois messages différents pour trois publics différents. Et c'est pas grave, parce que ces publics vont pas se rencontrer, qui vont pas forcément partager les mêmes infos, et il suffit que vous envoyez le bon signal dans la bonne communauté, et quelque part, c'est bon. Donc effectivement, oui, le politique peut être tenté aujourd'hui, enfin, on le voit bien avec Trump, de dire totalement n'importe quoi, mais totalement, c'est-à-dire la différence, c'est avant, les mensonges étaient basés sur un semblant de réalité, c'est-à-dire je prends un bout de réalité, je le déforme, j'en fais quelque chose. Avec Trump, on passe un cap où on est vraiment dans le n'importe quoi. J'invente qu'il y a eu 3 millions d'électeurs frauduleux en Californie, ça n'existe pas.
Et pourquoi d'un seul coup c'est pas grave?
Alors pour lui, pourquoi c'est pas grave? Sans doute parce que la question, j'ai pas assez creusé le personnage, c'est dans quelle mesure ça vient de lui, dans quelle mesure c'est une stratégie délibérée. Je pense que ça l'est en partie, on sait qui est son entourage. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'à l'heure d'Internet, vous allez trouver des gens pour le croire. Et que ce qui est important finalement, c'est ça, c'est que vous soyez cru. Et c'est que finalement, les gens, c'est ce qu'explique bien l'article de Vincent Glade que vous aviez cité en introduction, c'est que Trump a réussi effectivement peut-être à faire rentrer les gens dans sa réalité. Et que dans sa réalité à lui, eh ben c'est vrai. Même si factuellement, et dans notre monde à nous, c'est faux. Et la question, c'est combien de gens vous arrivez à entraîner avec vous dans votre réalité, ou combien de gens, moi journaliste, j'arrive à dissuader de rentrer dans cette réalité-là, puisqu'elle est fausse pour le reste de la réalité.
En même temps, il n'y a pas besoin d'aller si loin. Vous écrivez dans un récent papier, combien est-ce que ce n'est pas grave non plus pour Nicolas Sarkozy de faire des propositions fausses à répétition, oui, y compris des propositions qui ont été démenties, critiquées, présentées comme fausses et qui seront réinjectées dans un discours sans problème. Pourquoi, là encore, ce n'est pas grave?
Là aussi, vous tombez d'ailleurs sur une contradiction qui est assez pas amusante, entre guillemets. Quand on faisait des vérifications, des choses comme ça, on a fait notamment sur les programmes des articles pour expliquer ça, ils le proposent, ou tel, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ça va être compliqué? Parce qu'il y a des règlements européens, parce que c'est dans la Constitution, il va falloir revenir sur la Constitution. Et on s'est fait engueuler, y compris par d'autres journalistes, qui nous disent, et on retombe un peu dans la critique londonienne de « mais vous faites le cadre, vous empêchez les gens de dire ce qui est possible, ce qui n'est pas, c'est pas à vous de décider ce qui est possible et ce qui n'est pas. » C'est vrai, sans doute. Nous, on ne m'a pas dit « c'est pas possible », on a dit « c'est difficile ». Et de fait, je pense à ça parce qu'on avait fait ça pour les régionales à Valérie Pécresse qui voulait faire des tests anticannabiques dans les lycées, elle a finalement dû y renoncer parce que c'était trop compliqué ce qu'on avait écrit, se faisant engueuler à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que les journalistes ont sans doute aussi pour mission de donner des cadres et d'expliquer. Et qu'il y a une tentation de renversement de table, il y a une tentation aussi de dire mais si les médias qu'on déteste par ailleurs, parce que c'est l'élite et qu'on déteste l'élite, nous disent que c'est faux, alors peut-être que c'est vrai et peut-être que justement c'est d'autant plus vrai. Donc quelque part, dire n'importe quoi, c'est aussi s'offrir l'aura de bousculer les tabous, pour vous prendre les formules classiques, bousculer les tabous, bousculer les médias, bousculer la bien-pensance, cette espèce de formule magique aussi des années 2000, et que quelque part ça sert votre discours, quoi.
J'ai regardé quand les tours du World Trade Center se sont effondrées et j'ai vu dans la ville de Jersey City des milliers et des milliers de personnes qui se réjouissaient. Elles dansaient dans les rues et sur les toits. C'est pas moi qui ai provoqué cela.
Alors voilà, il y a tout le monde qui est venu dire que c'est pas vrai. Le maire de New York à l'époque, Rudy Giuliani, dit « oui, j'en ai vu quelques-uns, mais évidemment pas ça ». Mais peu importe, des gens qui ont envie d'entendre ça l'ont entendu. Et Donald Trump, il le répète. C'est exactement comme cela que ça se passe à chaque fois, à chaque déclaration outrancière de Donald Trump.
Et puis un des journalistes qui a un léger problème de handicap à la main et qui couvrait précisément ces fausses scènes de joie, a été ridiculisé par Donald Trump qui s'est moqué de son handicap.
Oui, parce que Donald Trump citait l'article de ce journaliste qui est venu dire « mais non, c'est pas vrai, j'ai pas écrit ça, j'ai pas dit ça, c'est pas ça qui s'est passé ». Ce journaliste a effectivement un léger handicap psychomoteur et évidemment, en meeting, Donald Trump s'est moqué de lui en l'imitant, tout simplement.
Le mensonge est toujours odieux quand on en profite. Kant. Ce qu'on gagne par le mensonge en réputation d'habileté, on le perd en considération. Chateaubriand. Le mensonge est l'assassinat de l'intelligence. Proudhon. Le mensonge fut toujours abhorré du genre humain. Lacordaire. Alors, on a là une espèce de litanie, effectivement, de protestation vertueuse qui se situe exactement en face de Swift.
Ah oui, tout à fait. On se demande d'ailleurs pourquoi tant de réprobation, sinon bien sûr pour soupçonner des origines chrétiennes à toute cette affaire. C'est pas du tout le propos de Swift. Du coup, la question serait plutôt, non pas pourquoi les hommes politiques mentent-ils, mais pourquoi diraient-ils la vérité après tout ? Hein ? Parce que si on se fonde sur ce qu'on sait du moment où la politique est apparue et s'est détachée de la religion chez Machiavel en particulier, il est clair que le mensonge est partie intégrante de ce conflit des forces, des intérêts et des passions où il repère l'émergence de la politique sur son état moderne.
C'était le précepte absolu du décalogue dans la Bible, tu ne mentiras pas.
Absolument.
Et en même temps, dès la Bible, on voit aussi des personnages comme Jacob, Joseph, etc., qui ne sont pas fait faute de mentir.
Absolument. Mais il faut, disait Machiavel, cette nature, savoir la colorer et être grand simulateur et dissimulateur. Et les hommes sont si simples, ils obéissent si bien aux nécessités présentes, que celui qui trompe trouvera toujours qui se laissera tromper. À un prince, il n'est donc pas nécessaire d'avoir toutes les susdites qualités, mais il est bien nécessaire de paraître les avoir, comme de paraître pitoyable, fidèle, humain, généreux et de l'être. Mais d'avoir l'esprit édifié de telle façon que s'il faut ne point l'être, tu puisses et saches devenir le contraire.
L'essentielle conclusion, c'est de pouvoir retourner sa veste. On entend ici un extrait d'une émission qui date d'octobre 2008, Concordance des temps, un dialogue entre Jean-Jacques Courtine et Jean-Noël Jeanneney. Et ça faisait suite à un extrait de l'émission Nicolas Demorand, Un jour dans le monde sur France Inter, où il dialoguait avec le correspondant américain Frédéric Carbone à propos des mensonges de Trump. Gérald Bronner, lorsque vous dites finalement il y a quelque chose de démocratique dans cette histoire, la démocratie des crédules, c'est le titre de votre ouvrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, pourquoi les politiques diraient-ils la vérité? En démocratie, ça s'est jamais passé autrement?
C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement les stratégies qui caractérisent, qui ont toujours sans doute caractérisé le monde politique. Je crois pas que les hommes politiques aujourd'hui soient moins vertueux ou plus vertueux que par le passé. Je vois pas pourquoi il y aurait eu un changement anthropologique comme ça dans la parole politique. Simplement, les conditions, en effet, d'émission du message, d'émission de l'information, de test de cette information, de vérification de l'information sont plus du tout les mêmes. Donc, ça peut être une stratégie gagnante, on le voit bien. Il a été bien dit, d'ailleurs, là, sur votre antenne. D'une part, l'outrance pour attirer l'attention, mais aussi, d'autre part, s'adresser à des publics tout à fait différents avec des messages différents, étant donné que cette attention sur ce marché dont on parle, elle est extrêmement fragmentée. C'est un effet pervers d'une situation qui a beaucoup d'effets vertueux. Cette situation que nous sommes en train de vivre, elle n'a pas que des effets pervers. Mais tout de même, cette dérégulation du marché de l'information, ça consiste en quoi, grosso modo? C'est tout simplement qu'on n'a jamais vérifié l'information. Je veux dire, l'individu moyen n'a jamais vraiment vérifié l'information. Simplement, pendant longtemps, les émetteurs d'information étaient des émetteurs professionnels qui faisaient normalement ce travail de vérification de l'information. Est-ce qu'ils le font toujours? Absolument. Mais ils sont concurrencés par toute une série d'acteurs sur ce marché qui, eux, ne prennent pas le temps de vérifier de l'information, ou même pire, qui diffusent volontairement des mensonges.
Et qui sont plus convaincants parfois.
Et qui sont plus convaincants pour les raisons qu'on a dites, parce que, et tout simplement, ils caressent dans le sens du poil, si je puis dire, les pentes les moins honorables de notre cerveau. Songez par exemple à ce qui s'est passé en Italie très récemment, ils ont voté, nous le savons, et de quelle façon, au référendum, et le parti de Grillo, le parti 5 étoiles, on le sait, a beaucoup de points communs avec le discours de Donald Trump, anti-vaccin, conspirationniste, mais plus encore, diffuse volontairement via tout un réseau de sites des fausses informations. Et il n'y a même pas besoin qu'il le fasse en réalité, car il y a quelqu'un qui anime aux États-Unis un site qui ressemble un peu au Gorafi français, c'est-à-dire c'est un site, disons, de canular, quoi, grosso modo, un site satirique, et qui a fait croire, qui a dit pour rire que le pape François soutenait Donald Trump, n'est-ce pas? Il y a eu près d'un million de vues de cette information. Difficile de savoir si les gens l'ont cru ou pas, mais ça s'est diffusé comme s'il était une information vraie. Tout simplement parce que mettez-vous à la place d'un internaute. C'est pas la peine de jeter la pierre aux individus, c'est coûteux. Comment aller vérifier cette information? Est-ce que je vais me brancher sur le site du Vatican? Que sais-je? J'ai pas envie, et j'ai d'autant moins envie que j'ai envie de croire que cette information est vraie, par exemple. Donc en fait, ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui sous nos yeux, c'est simplement la diffusion de très anciens fonctionnements du cerveau. Ça fonctionne un peu comme pour le sucre, si vous voulez. Il y a un temps où stocker du sucre pour l'homme sous forme de graisse était très intéressant. Au temps du Pléistocène, dans un temps ancien où le sucre était rare parce que ça nous permettait une énergie disponible rapidement, n'est-ce pas, pour le corps. Mais en un temps où la société fabrique du sucre en quantité industrielle, cette aptitude de l'homme devient contre-productive. Ça fait des sociétés d'obèses, comme le souligne très souvent l'OMS, n'est-ce pas? Eh bien, pour l'information, c'est un peu la même chose. Notre cerveau a un certain nombre d'aptitudes, par exemple à surestimer les faibles probabilités, à être plus attiré par le pire plutôt que par le meilleur, etc. On comprend que ça a pu avoir peut-être un intérêt pour la survie de notre espèce il y a longtemps, mais aujourd'hui qu'on est dans un état d'information dérégulé, eh bien on voit ressurgir en quelque sorte l'homme préhistorique sur la scène publique.
Ça veut dire qu'il va falloir, avec ces mêmes capacités du cerveau, inventer des modèles qui vont, si l'on tient encore un tant soit peu à la vérité, notamment en politique, contrecarrer ce système dont vous dites qu'il a par ailleurs des vertus. Mais en fait, quand on vous écoute et aussi Samuel Laurent, on se demande, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, si l'essentiel c'est de pouvoir, pour reprendre la citation que fait Courtine de Machiavel, dire quelque chose et d'être en mesure quelques jours ou mois plus tard de dire l'inverse, ou être quelque chose et être en mesure quelques mois plus tard pour séduire, d'être le contraire, alors quels outils?
C'est peut-être... Là, vous allez me trouver peut-être excessivement optimiste tout à coup.
Mais please, je ne demande que ça.
Parce que c'est vrai que ce que j'ai dit jusqu'à présent était peut-être un peu désespérant. Mais il faut bien se souvenir d'une chose. Le cerveau, on parle de quoi en fin de compte? On parle beaucoup du fonctionnement de notre cerveau qui est livré à un environnement informationnel qui a changé. Ce n'est pas le cerveau, donc encore une fois, qui a changé, c'est cet environnement. Et c'est une formidable chance. Je ne suis pas du tout pour revenir en arrière, pour interdire Internet ou je ne sais pas quoi, ou pour réguler avec des lois liberticides ce marché de l'information. Ça ne va pas tellement dans le sens de ma philosophie. Mais il faut bien se souvenir que notre cerveau, c'est l'outil le plus complexe de l'univers connu. 1 000 000 000 de milliards de connexions dans une petite boîte crânienne, mine de rien, c'est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Et donc, il est hautement imprédictible. Quand je parle de démocratie des crédules, je ne crois pas que nous soyons déjà dans la démocratie des crédules. Je crois que c'est un idéal type, comme on dit en sociologie, de société qui me sert un peu d'épouvantail pour dire qu'il y a un autre pôle qui est la société, la démocratie de la connaissance, qui est aussi possible. Alors, comment tendre plutôt vers la démocratie de la connaissance, parce que c'est ça votre question, si je la comprends bien. Eh bien, je dirais tout de même qu'il faut faire un effort considérable face à cette révolution sur le marché de l'information, qui peut être encore une fois une grande opportunité. C'est quoi cette opportunité? Ben, c'est d'aller dans le sens de la démocratie rêvée depuis ses origines, c'est-à-dire une société qui serait peuplée d'individus intellectuellement autonomes. Nous n'en sommes encore pas là, mais c'est loin d'être désespéré, c'est une question de pédagogie. En réalité, nous pouvons parfaitement apprendre les règles de fonctionnement de notre esprit lorsqu'il nous égare. Nous pouvons faire progresser la pensée méthodique à condition, c'est pour ça que j'ai un peu égratigné tout à l'heure la figure qui est presque sacralisée de Foucault, à condition de convenir qu'il existe dans certains domaines la possibilité d'administrer la preuve, mais que cette preuve ne s'administre n'importe comment, que même en démocratie, si vous voulez, la connaissance a des droits que la croyance n'a pas, n'est-ce pas?
Sur ce terrain-là, justement, Samuel Laurent, vous précisiez tout à l'heure que les décodeurs ne font pas simplement de la vérification des faits, mais aussi des articles pédagogiques, et qu'on sait par ailleurs que vous intervenez dans des masterclass, dans des rencontres avec des étudiants journalistes, avec des étudiants tout court. Ça veut dire que, alors on ne ferait dire que ce qu'on dit très régulièrement, notamment à cette antenne, la solution, c'est l'éducation. Mais alors, du coup, massive.
Je pense qu'une des solutions, c'est l'éducation, effectivement, c'est l'éducation des plus jeunes. Maintenant, quand vous regardez les dernières enquêtes qui sont publiées sur le sujet, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que cette jeune génération, qui est la génération Y et Z, qui est née avec Internet, est aussi celle qui indifférencie le plus les supports, et quand elle s'informe, qui arrive le moins à faire la différence entre le vrai et le faux. Donc il y a effectivement besoin, je pense, d'un retour à une éducation aux méthodes de vérification, sans doute d'éducation à l'information et au paysage informationnel. Le problème, c'est qu'il a tellement bougé et qu'il bouge tellement vite que c'est tout à fait compréhensible que l'éducation nationale ait du mal à le suivre et à former assez efficacement. Mais oui, je pense qu'une des solutions, une des clés est là. Elle est sans doute aussi dans l'accompagnement et la labellisation. Et sans doute, la presse a toujours eu un rôle en société qui est compliqué, qui est dans quelle mesure nous sommes des entreprises un peu commerciales, mais pas tout à fait. Dans quelle mesure nous sommes un service public, mais pas tout à fait non plus. Mais je pense qu'il faut que collectivement, les journalistes, et là je parle pas des manières, je parle bien des journalistes et de la profession journalistique, s'emparent de ces questions. Nous, on va lancer en janvier un projet, dont j'espère qu'il va aboutir et aller assez loin, de labellisation des sites. Où en gros, on va vous proposer un petit plugin que vous installerez sur votre navigateur, Et quand vous allez sur un site qui est connu pour balancer des faux, bah, ça vous mettra un petit truc rouge clignotant en vous disant attention, ce site n'est pas fiable. Alors on va se prendre des critiques de partout, j'imagine. Mais bon, c'est un début de réponse et on commence à voir d'autres gens au niveau international qui travaillent sur ces questions-là. Je pense qu'une autre partie de la réponse, une partie même importante, elle viendra de ce qu'on appelle les FAI, donc Google, Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, qui sont finalement aujourd'hui devenus les tuyaux de diffusion de l'information.
Et donc du faux.
Et par exemple, l'article que citait Gérard Bonheur sur le faux article en question, s'il a été aussi partagé, c'est parce qu'il est apparu en une de Google News. L'article disant que Donald Trump avait gagné le vote populaire, ce qui était faux, est apparu en une de Google News. Ce matin, quelqu'un a tweeté l'article du New York Times sur la démocratie du faux et la post-vérité. Au milieu de cet article, il y avait une publicité pour un de ces sites, justement, de clickbait. Et la publicité, c'était une publicité sur la mort de l'acteur Alec Baldwin, qui n'est pas mort. Donc c'était un faux, au milieu d'un article pour parler du problème du faux.
Enfin, en revient à la question première de la frontière, à savoir le fiable ou le faux, et peut-être même la question sous-jacente à la critique que vous qualifiez de virulente de Frédéric Lordon, à savoir la question de l'idéologie. Mmh. Néanmoins, dans ce choix ou ce projet de petite alarme qui va dire ce site fait circuler de la fausse information, alors quels seront les critères pour dire ceci est faux ?
Oui, des faits. Pour le coup, on s'est pas amusé à classer les sites. Enfin, comment dire, on n'a évidemment pas fait un classement idéologique des sites. Donc, Valeurs Actuelles est considéré comme un site journalistique au même titre que d'autres. Et on essaie d'être les plus exhaustifs possibles dans le. Mais voilà. Mais notre idée, c'est vraiment de pointer le fait qu'il soit orienté, ou en tout cas d'avertir le lecteur, peut-être. Si vous êtes sur un site hyper orienté qui a tendance à dire des choses fausses et qui, de toute façon, de manière générale, est dans une ambiance très outrancière, on va peut-être vous le flaguer. On va faire un système sans doute en trois couleurs, donc en rouge, orange, vert. On va peut-être le flaguer en orange en disant. Et il s'agit pas d'interdire aux gens d'y aller. Il s'agit d'y aller en connaissance de cause. Je pense qu'un des problèmes, c'est aussi ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile, quand vous n'avez pas une culture assez avancée d'Internet, de savoir si vous êtes sur un site sérieux, sur un site pas sérieux, si l'information elle est sérieuse ou pas. On a l'impression, nous, journalistes, que les gens savent ce que c'est qu'une source, savent ce que c'est qu'un témoignage anonyme, pas anonyme, qu'un recoupement. Pas du tout. En fait, pas du tout. Discuter avec n'importe qui dans la rue, c'est un texte, ça circule sur Internet. J'ai tendance à bien aimer, à trouver que je trouve que ça me paraît plutôt vrai, donc c'est vrai. Moi, la réponse que j'ai très souvent quand il y a des gens qui font diffuser des choses fausses, que vous allez leur dire c'est faux, ils vous répondre « Oui, d'accord, c'est faux, mais ça aurait pu être vrai. » Et c'est ça le problème, en fait, le nœud du problème, c'est qu'effectivement, dans leur tête à eux, c'est faux, mais ça pourrait être vrai. Donc, quelque part, ça devrait être vrai. Donc, quelque part, c'est vrai.
Les sites qui auront des drapeaux verts, pour autant, ne sont pas exempts de parfois faire circuler ou bien des faux ou bien des horreurs.
La presse se trompe, évidemment, et ça c'est toujours arrivé, ça arrivera toujours. Maintenant, la presse, quand elle se trompe, en général, elle rectifie. Elle ne laisse pas en ligne des choses fausses, en tout cas, on essaye. Et évidemment, il y aura des sites qu'on pourra toujours critiquer. On pourra dire c'est faux, ils mentent, ils machin. Nous, on essaye de se baser. Enfin, moi, la notion que j'ai voulu poser au centre de ça, c'est la méthode journalistique. Est-ce que ces sites-là sont faits par des journalistes? Est-ce que ces journalistes respectent des méthodes journalistiques, c'est-à-dire le contradictoire? C'est-à-dire croiser ses sources, c'est-à-dire appeler les gens qu'on met en cause, ce genre de choses. Si c'est le cas, alors oui, on peut estimer que c'est des sites plutôt fiables. Maintenant, évidemment, et c'est ce qu'on dira un peu partout, rien n'est 100% fiable. Et le meilleur moyen, c'est de croiser ses sources et c'est de s'informer auprès de plusieurs médias. Et on n'est pas du tout en train de dire il faut censurer, il faut effectivement revenir à l'ORTF. Pas du tout. C'est apprendre ce qu'on lit, pourquoi on lit, d'où ça vient et quel degré de fiabilité on peut lui accorder.
Dans toute cette réflexion massive et très hétérogène autour de l'ère du post-truth, il y a aussi l'idée de la hiérarchie de l'information. C'est-à-dire qu'il y aurait aussi un élan faux à l'égard des lecteurs ou des internautes à mettre une information première qui n'a pas forcément grand intérêt ou qui serait moins importante et à mettre une information derrière, donc potentiellement moins consultée, qui, elle, aurait une importance. Mais on entend bien là le caractère très subjectif de ce classement-là. Alors du coup, parce que c'est aussi une critique qui est faite par Frédéric Lordon dans cette... Le pauvre, on parle de lui, mais on l'a invité, hein. Il n'est pas là. Mais cette hiérarchisation-là, elle peut aussi toucher à du vrai et du faux. Alors on vous dit que cette information, c'est la plus importante. On peut dire non, c'est faux. Ce n'est pas la plus importante.
Je pense que c'est déjà plus difficile d'établir un critère objectif de quelle est l'information importante et le choix de l'information importante a longtemps été un des privilèges des médias. Ce qu'on appelle la fonction d'agenda. Cette fonction d'agenda, on le sait tous, on l'a perdue depuis bien longtemps. On l'a perdue à l'arrivée d'Internet et on est en train de perdre d'autres choses. C'est vraiment...
D'autres l'ont gagné, hein. Vous citiez Google News.
Oui,
eux, ils l'ont gagné, la question de la
hiérarchie. C'est le chaos qui l'a gagné parce que Google News, c'est un algorithme qui l'a fait. Il n'y a personne qui décide de quel sujet monte en tête de Google News. Sinon, les internautes qui cliquent dessus et sinon, un algorithme très compliqué. Est-ce qu'on l'a gagné? Je pense aussi qu'il y a une part du public. Qu'est-ce que c'est que le public aujourd'hui? C'est les publics. C'est évident que quelqu'un qui a des préoccupations écologistes va pas avoir le même agenda que quelqu'un qui s'intéresse au football. Et aujourd'hui, sur Internet, si vous aimez le football, vous pouvez lire pendant des heures, des jours, des semaines entières, tout ce que vous voulez sur le football, avec un degré d'expertise auquel moi je ne comprends rien, mais qui, voilà, qui passionne des gens. Et pour ces gens-là, évidemment, l'information du jour va être une histoire de foot et pas une histoire d'écologie. Donc je pense qu'il y a aussi cette question de, et cette illusion qui nous vient sans doute encore une fois du monopole, du fait qu'on peut établir tous les jours une espèce de grille qui dit ça c'est le numéro un des sujets les plus importants, ça c'est deux, ça c'est trois et jusqu'à 10. Non, ça n'a jamais marché comme ça. Ça a toujours été des choix subjectifs faits par des rédactions, qui n'étaient d'ailleurs pas les mêmes selon les rédactions. Enfin, la Une de l'Humanité et la Une du Figaro sont rarement les mêmes, sauf en cas de très gros événements nationaux. Et ça, c'était une fonction journalistique. Sans doute qu'on l'a perdue et sans doute surtout qu'elle est remplacée aujourd'hui par quelque chose où il n'y a plus ça parce qu'on n'est plus dans un espace fini des médias. On fait une hiérarchie aussi parce qu'on est dans un espace temps fini dans le JT ou dans un espace physique fini dans un journal. Un journal, il a 30 pages, 40 pages. Et une fois que vous les avez remplis, vous n'avez plus de place. Internet, vous n'avez jamais de problème de place. Jamais. Donc si vous voulez passer 20 ans à parler du 11 septembre et à alimenter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses, c'est possible. Et ça finit par fonctionner, puisqu'aujourd'hui, pareil, il y a presque 40% des Américains pensent que le 11 septembre s'est pas passé comme ce qu'on en raconte.
Quand vous dites que personne n'a gagné ce combat de la hiérarchisation de l'Internet en disant qu'il s'agit d'un algorithme, mais sauf erreur de ma part, il y a des gens qui programment ces algorithmes, qui les inventent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de flotter dans l'air sans aucune intention.
Mais leur but à eux n'est pas de favoriser tel ou tel type d'info, il est de favoriser ce que les gens ont envie de lire.
Mais ce qui nous fait revenir à ce que disait Gérald Brunner, est-ce que vous disiez vous aussi ?
La question du coup, en fait, on va en revenir là, c'est vraiment la question de la démocratie directe et de la démocratie représentative. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, j'accepte que moi, je ne suis pas capable de choisir tout seul pour ma nation, donc j'élis des gens qui vont être capables de le faire ? Et est-ce qu'à un moment donné, j'accepte que des journalistes dont c'est le métier soient capables de lire pour moi, en gros, l'information et de la restituer sous une forme qui me plaît, sachant que j'ai un choix parmi plein de journalistes et plein de médias ? Et c'est cette question-là, en fait, qui est posée. C'est aussi cette illusion, entre guillemets, de croire qu'on peut tout savoir sur Internet. Et quand vous discutez avec des élèves de la théorie du complot, qui ne sont pas du tout tous les gens qui se font berner par le four, hein, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont des victimes, mais les vrais gens qui propagent ces théories-là se vivent beaucoup comme ça, comme des journalistes enquêteurs, Alors ça donne, donc l'affaire du Pizzagate la semaine dernière, où vous avez un type avec un fusil qui se pointe dans une pizzeria à Washington, parce que ça fait des mois qu'il y a une théorie du complot autour de cette pizzeria qui serait une espèce de haut lieu de la pédophilie avec tout Hollywood, tous les démocrates impliqués. N'empêche que des gens sérieux y croient. Et ces gens-là, la théorie du complot, quelque part, elle est flatteuse parce qu'on a l'impression, on nous dit « Ah, tu vois, t'es pas comme les autres moutons. Ah, tu vois, toi, tu as compris. Toi, t'es intelligent. Toi, t'as été lire entre les lignes, t'as été chercher. » Il y a toujours aussi ce mythe de la vérité cachée, qu'on cacherait. Les médias, le système des médias. C'est pour ça que ça m'énerve quand Lordon retombe dans cette espèce de critique de comptoir sur les médias et le système qui, évidemment, est verrouillé. Vous savez bien, d'ailleurs, on s'est vu à l'Assemblée Générale des médias pour discuter de ce que les médias allaient choisir de mettre en avant. Et cette espèce de vision conspirationniste, forcément, alimente cette, voilà. Et ce danger de taper sur ce qui fait la médiation, en fait, entre nous et le monde, et sur des gens dont c'est le métier de vous raconter le monde, en bien, en mal, en se trompant des fois, en le faisant pas bien, en le faisant de manière orientée peut-être, mais c'est un métier, comme d'autres métiers, quoi. I'm on the way, you were on my way, everything against us, fate has struck us, you know that I'm not a roller coaster, you know that hit and burn, it wasn't our fault, the shock was so low. I'm
Il a été l'un des ministres les plus influents de François Hollande. Jérôme Cahuzac a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Paris. L'ancien ministre du budget, reconnu coupable de fraude fiscale, lui qui avait menti sur son compte en Suisse alors qu'il était en fonction. Bonsoir Florence Turne.
Bonsoir.
Le tribunal a estimé que Jérôme Cahuzac devait aller en prison pour payer sa faute.
Oui, 3 ans de prison ferme non aménageable, c'est une condamnation conforme aux réquisitions du parquet qui demandait une peine sévère pour l'homme qui a flétri l'honneur de la France, tout en rappelant le maximum encouru par la loi, 7 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. La 32e chambre correctionnelle a rendu un jugement de 205 pages et le président du tribunal a pris le temps à l'audience d'en exposer les grandes lignes et la nécessité d'une incarcération effective. Il a rappelé le mensonge et la dissimulation. Il ne s'agit pas de sanctionner le fait d'avoir menti devant le Parlement, précise le magistrat, mais de sanctionner cette faute pénale d'une exceptionnelle gravité, destructrice du lien social et de la confiance des citoyens dans les institutions de l'État.
La voix de Florence Turme, journaliste à la rédaction de France Culture, qui réagit, qui fait un papier le 8 décembre 2016 dans son journal à propos de la condamnation de Jérôme Cahuzac, qui fait appel à ce moment-là. Il est question d'un magistrat qui dit « Nous ne sanctionnons pas le fait qu'il y ait eu mensonge. Nous sanctionnons le fait qu'il y ait eu compte, etc. etc. » Qu'est-ce qu'il faut entendre, Gérald Brunner, dans la phrase de ce magistrat, ce que nous sanctionnons n'est pas le mensonge.
Bah écoutez, là, il faudrait avoir des compétences juridiques pour savoir si le mensonge dans ce cas de figure est condamnable ou pas condamnable. Mais je pense que ce qu'a dit le juge est simple, c'est bien la faute fiscale qui est condamnée et la dissimulation aggravée, n'est-ce pas ? Par contre, ce qui est intéressant tout de même, c'est que d'une part, dans cette condamnation assez lourde sur laquelle d'ailleurs je crois il y a un appel qui est en cours. Oui. 3 ans, moi j'y vois un argument, y compris contre ceux qui disent les politiques sont protégés, etc. Il leur arrive jamais rien, etc. Le réel montre que ce n'est pas vrai en l'occurrence, et y compris cette dissimulation fiscale grave dont s'est rendu coupable M. Cahuzac, puisque maintenant les faits sont avérés, et n'est pas resté. Il a fallu un certain temps, n'est-ce pas, pour que l'affaire soit débusquée, mais cette affaire a été débusquée par des journalistes, par des journalistes d'investigation. Elle a été rendue dans l'espace public. C'est donc que la chose est possible, tout simplement.
Ça veut dire qu'elle est possible et ça veut dire qu'elle a des conséquences. On parlait tout à l'heure un poil plus optimiste de l'importance de l'éducation, aussi à un esprit critique, de l'importance de la question de la preuve possible. En tout cas, par exemple, le fait que la justice condamne un ministre qui a dissimulé de l'argent et qui a menti sur ses comptes peut avoir, selon vous, un impact.
C'est un impact paradoxal, c'est un peu le paradoxe de la transparence, si vous voulez. Parce que ça peut donner l'impression, plus il y a des affaires qui sont révélées, plus ça montre que la justice ou même que le système d'information fonctionne bien, n'est-ce pas, quand il y a des scandales qui sont révélés, etc. Mais le problème, c'est que paradoxalement, en rendant plus visibles tous ces scandales, on peut donner l'impression aux citoyens qu'il y en a de plus en plus. Et s'il y en a de plus en plus, c'est que le monde est de plus en plus corrompu, n'est-ce pas ? Et puis l'autre côté de la corde, c'est ces médias dont on a parlé, que j'ai pas mal défendu, mais qu'on peut aussi attaquer, comme on l'a dit, sur le mode de la démagogie cognitive. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'un scoop ou qu'un scandale va être relativement juteux sur ce marché de l'attention pour attirer du temps de cerveau disponible, n'est-ce pas ? Je peux mettre en avant toutes sortes de dangers. Et là, je trouve qu'on rentre dans un autre registre dont on n'a pas beaucoup parlé. Il faudrait une émission tout entière, qui est celle de la perception des risques, par exemple sanitaires, et à propos desquels, dans les espaces publics, y compris sur les sur Radio France, tout simplement, on entend toutes sortes d'alertes inconséquentes, je pense en particulier à la question des vaccins, sur laquelle je suis très sensible, et qui creuse le sillon de cette démagogie cognitive. Donc vous voyez, le problème, c'est que la révélation journalistique, elle est absolument nécessaire à la vie démocratique, mais elle constitue aussi un bon produit sur ce marché de l'attention et qui peut créer des tentations qui sont pas forcément toujours déontologiques.
On est beaucoup revenu sur cette question à la fois du marché de l'information, du marché de l'attention, donc d'un système et d'un fonctionnement basé sur du commerce en fait. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faudrait désamorcer, déconstruire, réinventer autrement pour que par conséquence le rapport au vrai et au faux juteux et mis sur le marché soit modifié ?
Mais moi, je pense que déjà, le fait de rapporter les mécanismes de marché à la seule logique du commerce est une erreur. C'est-à-dire qu'il y a des marchés économiques, c'est ceux qu'on connaît le plus, mais il y a toutes sortes de marchés. Là, on parle d'un autre type de marché, c'est-à-dire il y a sur un marché toujours, c'est une métaphore bien entendu, une offre et une demande. Donc il est très important de comprendre ces mécanismes pour pas trouver de fausses solutions ou de solutions faussement moralisantes. Mmh. Ce n'est pas l'économisation de ce monde qui pose problème, c'est qu'il faut se poser les questions techniques, comme il a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire il y a les questions aussi de disponibilité de l'information, quelles sont les informations qui sont le plus visibles ou l'autre, et comment, disons, contrebalancer la visibilité de certaines informations qu'on peut juger non désirables sans enfreindre les libertés individuelles. C'est un formidable défi pour nos sociétés démocratiques. Je pense qu'il a été dit tout à l'heure que les algorithmes ne sont pas neutres. Les algorithmes nous enferment, aussi bien celui de Google que, et en particulier ceux des réseaux sociaux, nous enferment dans une fréquentation de propositions qui nous ressemblent, en quelque sorte. Ça, c'est particulièrement vrai pour Facebook, mais vous l'avez bien dit tout à l'heure aussi, je pense que les grands acteurs vont être ceux des GAFA, c'est-à-dire aussi bien Facebook, etc., qui ont pris conscience de cela. Donc c'est une question d'architecture du choix. Si je reprends ma métaphore du sucre, etc., il est avéré, il y a eu des expérimentations qui ont été faites dans les cantines. Vous savez, si vous mettez des frites et de la salade, eh bien évidemment, les enfants vont avoir tendance à choisir les frites, parce que leur corps a plus envie de frites que de salade. Mais si vous mettez la salade en premier et les frites derrière, vous n'enfreignez pas leur liberté. Ils peuvent choisir les frites, simplement, il faut qu'ils fassent un effort supplémentaire pour aller chercher les frites. Eh bien, statistiquement, ils vont consommer plus de salade, ce qui est plutôt bon en termes de santé publique. Je pense qu'il faut raisonner un peu comme ça pour l'information. Il ne faut surtout pas faire disparaître les informations qui nous gênent, parce que sinon on rentre dans un système totalitaire de l'information. Mais en revanche, on n'est pas obligé de se satisfaire d'algorithmes qui nous présentent au premier chef les informations qui flattent les pentes les moins honorables de notre esprit.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
Et il est 14h52 sur France Culture. Nous allons diffuser le récit vrai d'une histoire fausse. C'est Margot qui raconte un mensonge, un lendemain de fête à Manchester.
On est en hiver, un hiver très froid, en Angleterre, où je faisais mes études. Et avec mes amis anglais, on a décidé de partir à Manchester pour aller assister à un concert de musique électronique au mois de décembre. Donc on y est allé en grande bande, on était une dizaine, on a fait la fête toute la nuit, on a beaucoup dansé, comme savent le faire les Anglais. Et le lendemain, on avait encore beaucoup d'énergie. C'était un dimanche matin, on avait envie de continuer à profiter de ce joyeux moment ensemble. Et donc, avec certains d'entre eux, on est partis se balader dans les rues de Manchester, enfin plutôt de la banlieue de Manchester, un quartier résidentiel assez aisé. À un moment, avec l'un d'entre eux, qui s'appelle Todd, on avait un peu froid et on réfléchissait à des moyens de pouvoir se réchauffer pour quelques minutes, parce qu'il faisait vraiment très froid. Et là, on passe devant une belle maison, une grande maison familiale, et Todd me dit « Viens, on va toquer à cette porte. » Et donc, on s'approche de cette porte, on toque à la porte. Et là, une petite femme très âgée, qui devait avoir au moins 80 ans, nous ouvre. Elle nous demande évidemment ce qu'on veut, et nous, on n'avait pas encore réfléchi à ce qu'on allait dire. Et on commence un petit peu à discuter avec elle. Elle ne parlait pas très bien anglais. Elle était d'origine irakienne, c'était une famille irakienne. Et donc, elle appelle sa fille pour qu'on puisse communiquer. Et donc à ce moment-là, me vient l'idée de dire qu'on est des voisins, des jeunes voisins. On vient d'emménager dans le coin, et voilà, c'est dimanche midi, et on a envie d'apprendre à découvrir qui habite le quartier, rencontrer nos nouveaux voisins. Et donc là, ils étaient particulièrement accueillants, cordiaux, polis, et ils nous ont invités à entrer chez eux. Ils nous ont offert du thé, des gâteaux. Et on a commencé une discussion sur nos vies de jeunes habitants de Manchester, alors que c'était pas du tout le cas et qu'on n'était pas du tout un couple, et on s'est fait passer pour un couple, et on a dû expliquer pourquoi on quittait Londres pour Manchester. Enfin, c'est un mensonge à mener à un autre mensonge, c'était interminable. On n'avait vraiment qu'une seule envie, c'était d'exploser des rires, mais cette famille était tellement douce et touchante et qu'on se retenait, et donc on n'avait pas toujours... il fallait qu'on garde une cohérence aussi dans nos propos, donc on se regardait beaucoup pour voir qui allait répondre le premier, pour se sauver dans certaines situations, pour voir si l'autre avait une réponse ou pas, et aussi souvent, on évitait de se regarder parce qu'on savait que, on savait qu'on allait exploser de rire. Au début, ça nous amusait parce qu'on était dans la continuité de cette soirée où on avait beaucoup ri, fait quelques bêtises, etc. Et donc, c'en était juste une de plus. Mais arrivé dans ce lieu aussi pur, on a un peu été face à notre propre défaut, à notre imposture. On s'est senti un peu bête et du coup, ça nous a... Ça a été un vrai effort. Je me souviens que moi, je me concentrais sur ma respiration pour pas rire, pour me détendre. Au niveau des regards, il y avait une vraie chorégraphie entre lui et moi pour tenir, en fait, tenir jusqu'au bout et surtout ne pas leur manquer de respect. Et donc, cette situation a duré et duré jusqu'au moment où ils nous ont demandé où est-ce qu'on avait emménagé exactement. Et là, nous, on n'était pas du tout du coin. Donc, on a dû réfléchir. Et le premier nom qui nous est venu, c'était l'adresse dans l'appartement dans lequel on logeait, qui était à 1 kilomètre de là. Et donc, quand on leur a dit l'adresse, ils se sont regardés du genre, mais pourquoi ils viennent toquer à notre porte alors qu'on n'est pas vraiment voisins? Ils nous ont demandé si on avait fait ça, du coup, chez d'autres personnes. Donc, on leur a dit que oui, on a fait ça chez plein de monde. Enfin, voilà, ils sont restés adorables jusqu'au bout, mais quand même suspicieux à la fin. Et au moment où on est parti, on a attendu que la porte soit fermée. Et là, on a explosé de rire. Et ça reste un très, très bon souvenir de mon année en Angleterre. J'ai dit un mensonge et la tension s'est multipliée. Erland Hoy, Lies Become Part of Who You Are. Pour terminer cette émission, merci beaucoup Samuel Laurent,
merci.
Les Décodeurs, Le Monde Papier, lemonde.fr. Merci à vous Gérald Brunner d'avoir été en direct depuis Nancy. La démocratie des crédules s'est publiée au PUF. C'est terminé.
France Culture présente l'exposition Pascal, le cœur et la raison. Mathématicien, physicien, inventeur, philosophe, moraliste et théologien, Blaise Pascal échappe à toute tentative de portrait exhaustif. Cette exposition propose d'entrer dans son œuvre en suivant le fil de 3 ordres qui organisent la pensée pascalienne. Le corps, la raison et le cœur. Une occasion exceptionnelle de découvrir le célèbre manuscrit des pensées. Pascal, le cœur et la raison, jusqu'au 29 février à la Bibliothèque nationale de France François Mitterrand à Paris. Un partenariat France Culture avec le quotidien La Croix. La culture sans limite. Chaque jour à 19h. Martin Kenéen, Mathilde Sérène.
Martin, t'oublie pas qu'on a ping-pong. Raquette.
J'ai.
Musique d'intro bouillante.
J'ai.
Question émouvante sur l'enfance.
J'ai.
Une archive de derrière les fagots.
J'ai.
Un film lumineux et sexuel.
J'ai.
Un ouvrage post-genre.
J'ai.
Une citation de René Char.
J'ai.
Une petite blague.
J'ai toujours. Plaisir d'offrir.
Joie de recevoir.
Ping-pong. La culture sans limite.
Du lundi au vendredi sur France Culture à 19h. À écouter aussi sur franceculture.fr en partenariat avec le Figaroscope.
Et il va être bientôt 15h sur France Culture. Comme j'ai des petites habitudes auxquelles je tiens, c'est bête, je vais vous dire que vous pouvez réécouter les nouvelles vagues sur franceculture.fr, qu'on peut continuer de se parler sur Twitter, Facebook, et que le podcast existe, il faut le faire circuler.